France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'école vénitienne, on l'imagine comme un fleuve où les affluents arrivent sans cesse et modifient un cours fluctuant et sinueux. On peut visiter une ville, le nez en l'air et les mains dans les poches, sans avoir aucunement préparé son séjour. Bien qu'il soit difficile, dans le cas qui nous intéresse, Venise, d'y débarquer sans quelques savoirs et images en tête. On peut aussi tenir fermement en main un guide de voyage, le lire in extenso, au risque de moins regarder l'architecture, la peinture, les ports et places diverses. On peut enfin ne pas quitter son lieu de vie et attendre de deux guides, non pas de papier mais de chair et d'os, qu'ils nous instruisent et nous donnent le goût et l'envie de retourner à Venise. Les grandes étapes de l'art à Venise, heure vénitienne, une série proposée par Bronislav Horowitz à la fin des années 60. Torcello, Rialto et Piazza San Marco, ce fut le premier volet. Le Palais Ducal, ce fut le deuxième volet de cette série, diffusée dans les nuits de France Culture. En voici le troisième, Architecture et peinture. Première diffusion sur France Culture, le 1er octobre 1969, en compagnie donc de deux guides, dont l'un présidait la Commission internationale d'experts de l'UNESCO pour la sauvegarde de Venise.
Oh Venise, Venise, quand tes palais de marbre se seront écroulés dans les eaux, les nations se lamenteront sur tes ruines et l'on entendra des cris de douleur au bord de la mer destructive.
Heure vénitienne. Une série d'émissions produites et réalisées par Bronislav Horowitz et enregistrées à Venise par René Huyg et Marcel Brion de l'Académie française. Aujourd'hui, architectures et peintures.
Voyez avant tout les maisons qui sont en pierre, bien sûr, mais qui paraissent taillées dans une pâte de rêve. Regardez ensuite l'air, qui en certains endroits est pur et vif, en d'autres trouble et morne. Considérez aussi la stupeur que j'éprouvais à cause des nuages et de leurs différentes couleurs, les plus proches brûlaient et flamboyaient, les plus lointains rougeoyaient d'une ardeur de minium un peu voilée. Oh, qu'il était beau de voir les pinceaux naturels pousser l'air vers l'arrière-plan du tableau, au-delà des palais, à la manière même de Titien lorsqu'il peint ses paysages. D'un côté, on voyait un vert azuré, de l'autre, un azur vert étrangement broyé par la nature, maître des maîtres. Employant les teintes claires et les teintes obscures, elle donnait de la profondeur ou du relief aux choses qu'elle voulait enfoncer ou tirer en avant, au point que je vous appelais trois ou quatre fois « Ô Titien, où êtes-vous en ce moment ?» L'arrêtant.
La Venise gothique va être caractérisée à la fois par ses palais sur le Grand Canal. Les familles commencent à faire du Grand Canal l'allée somptueuse, les Champs-Élysées vénitiens où toutes les maisons des patriciens se groupent. Mais il y a aussi les églises gothiques qui se dressent partout. Et là, ce sont les grands ordres religieux qui mènent la campagne de construction. Il y a toute une série d'églises qui sont construites par eux, par les servis, par les frari, c'est-à-dire les petits frères, les franciscains, par les dominicani, par les dominicains. Et aujourd'hui, il reste, comme église très représentative, il reste San Stefano des Eremitani, il reste les frari des franciscains, et ici où nous sommes, sur la place, derrière la statue si fière du condottiere, il reste San Giovanni e Paolo. Et devant cette église, nous comprenons l'articulation que ces constructions ont apportée. Non pas que, c'est assez curieux, dans les églises, le génie gothique se soit exprimé dans la lignée de Venise, comme dans les palais, comme dans la Cadoro. Au contraire, ici, ce sont de grands murs nus. Et on peut se demander si les gothiques, qui ont pris la suite de l'art vénétiano-byzantin, on peut se demander si les gothiques qui avaient pris leur suite au point de vue du décor, de l'ondulation des lignes, des dentelures, dans un monument comme la Cadoro, n'ont pas au contraire préparé ici l'esprit à l'arrivée de l'art classique, parce qu'ils ont introduit dans Venise les plans et la grande nudité des plans. Ils ne l'ont sauvé que par la couleur, par la brique rose qui chante avec les ornements de pierre blanche, les encadrements des fenêtres, les fleurons sculptés dans le mur et surtout la grande porte d'entrée encadrée de colonnes, ici d'ailleurs de colonnes corinthiennes. Il y a là toute une préparation des volumes simples, d'une architecture qui exprime la stabilité et l'éternité, la géométrie, en opposition à cette mobilité perpétuelle qui semblait le génie et un peu le démon de Venise. Et en même temps, la vastitude des espaces, d'espaces intérieurs de ces églises est plaignée, beaucoup plus que dans le gothique français. Là encore, on sent venir, à travers un style très différent, on sent venir une conception de la construction qui, au fond, pourra, comme un gant, être animé et transformé plus tard par la main souveraine de Palladio, si paradoxal que ce rapprochement puisse paraître au premier abord. Et d'ailleurs, avant d'entrer dans l'église, arrêtons-nous encore un instant, car ce rapprochement avec Palladio, voici qu'il nous saisit à nouveau. Dans l'église gothique, il y a déjà ce grand élément central correspondant à la nef plus élevée du centre, ce grand élément central qui file verticalement et qui est rejoint par les toits des nefs latérales qui, avec leur pente, évoquent quelque peu ces frontons brisés de Palladio qui sont troué par la projection verticale de l'élément central. Nouveau rapport peut-être qui a joué par l'enfance de Palladio, par les images que l'enfant emmagasine et qu'il fait évoluer dans le langage que sa culture lui enseigne après. Peut-être bien est-ce là l'origine lointaine de certains songes architecturaux de Palladio qu'il a coulé dans le moule de la Renaissance. Et c'est pourquoi l'art de Palladio est en effet un nouveau classicisme qu'on peut ranger au point de vue des catégories historiques dans la suite de ce premier art de la Renaissance, mais qui en réalité est à l'opposé carrément un classicisme d'une autre inspiration et d'un autre esprit.
C'est une négation de la Renaissance, il efface, il abolit la Renaissance et il revient à une antiquité qui lui permet de créer Il Redentore et San Giorgio Maggiore. Cette église de San Giovanni e Paolo, où nous nous trouvons, que les Italiens, dans leurs aisements, appellent joliment San Zanipolo, est comme l'église des Frari, un panthéon des gloires vénitiennes. Il y a là les tombeaux de tout ce que Venise a compté d'illustres parmi les hommes d'État, les hommes de guerre, les diplomates et aussi quelques artistes. C'est pour ça qu'il est intéressant de remarquer combien l'esthétique funéraire a varié au cours des siècles. Et je crois qu'aucune église ne peut nous en montrer des exemples aussi frappants. Ainsi, par exemple, au XIIIe, nous voyons d'abord le départ dans l'extrême simplicité de quelques sarcophages qui se trouvent accolés à la façade extérieure de l'église. Et lorsque nous entrons, nous observons qu'au XIIIe siècle et au début du XIVe, les tombeaux se bornent à quelques urnes, par exemple l'urne de Raniero Zeno, qui est près de la porte. Raniero Zeno est mort en 1268. Il y a aussi le tombeau de Michele Morosini, qui est de 100 ans postérieur, mais qui est aussi très simple. Et il y a surtout, pour le XIVe siècle, celui qui est très important de Marco Corner, qui est mort en 1368, et c'est là que nous trouvons les statues de Nino Pisano, les grands sculpteurs pisans, et ce sont les dernières œuvres de ce dernier des Pisans. Quand nous passons au XVe siècle, nous trouvons alors adossés à la façade de l'église deux tombeaux de Tullio et Pietro Lombardi, consacrés respectivement à deux doges qui furent de grands hommes de guerre, Giovanni Mocenigo et Pietro Mocenigo. Et il est très intéressant d'observer alors combien la composition de ces tombeaux répond à une sorte de volonté d'ascension qui est à la fois formelle, structurale et en même temps spirituelle. Nous voyons au-dessous les personnages qui supportent le sarcophage, la statue du mort flanquée toujours des deux pages, l'un portant son épée et l'autre portant son écu, flanquée de saints dans des niches sur les côtés, selon le vieux principe médiéval des compositions à arcades, et enfin, au sommet, la gloire religieuse qui attend l'élu dans le paradis. Ces statues des Lombardes sont très belles parce que nous y retrouvons en même temps la grâce florentine et une certaine adoucissement même de cette grâce, une certaine tendresse qui est plus propre à la sculpture vénitienne. Et dès que nous quittons le XVe siècle, alors nous voyons s'amorcer le baroque. Mais franchissons le seuil de l'église et allons jusqu'au pied de la statue du Colleone, universellement célèbre et qui certes mérite de l'être.
Et voici Colleone, la tragédie du grand Verrocchio. Je savais bien qu'il n'était pas à Bergame. Il domine sur Venise même. C'est par prudence qu'on l'a banni dans l'exil de cette petite place, au bord d'un canal croupi, sans avenue ni perspective. Colleone est la puissance. Qu'il est beau dans la grandeur, mon Colleone. Et combien la grandeur porte toute vérité et toute beauté virile. Un peu moins de grandeur et l'œuvre serait seulement terrible. Elle ne donnerait que de l'effroi. Colleone, à cheval, marche dans les airs. S'il fait un pas de plus, il ne tombera pas. Il ne peut choir. Il mène sa terre avec lui. Son socle le suit. Qu'il avance, s'il veut, il ira jusqu'au bout de sa ligne, par-dessus le canal et les toits, par-dessus Cannaregio et Dorso Duro, par-delà toute la ville. Il ne fera jamais retraite. Il va, irrésistible et sûr. Il a toute la force et tout le calme. Marc Aurèle à Rome est trop paisible. Il parle et ne commande pas. Colleone est l'ordre de la force, à cheval. La force est juste. L'homme est accompli. Il va à un amble magnifique. Sa forte bête à la tête fine est un cheval de bataille. Il ne court pas, mais ni lent ni hâtif, ce pas nerveux ignore la fatigue. Le condottiere fait corps avec le glorieux animal. C'est le héros en armes. Il est grand, de jambes longues, le torse puissant, maigre à la taille, en corset de fer, en amphore de bronze qui s'évase aux épaules. Presque sans y toucher, l'anse du bras gauche tient la bride. Et le ciel est plus bleu, le ciel est plus pur dans l'espace qui sépare le gantelet de la cuirasse. L'autre bras est plus impérial encore. Colleone est un peu tourné vers la droite, comme un homme qui regarde devant soi sans quitter totalement des yeux l'horizon qu'il laisse sur un bord. Et de la sorte, son bras écarté ramène à lui, surveille et pousse comme un prisonnier cet horizon qu'il maîtrise. Elle serre, cette droite redoutable, le bâton ducal, pareil à une épée ronde. Et si le cheval marche, elle entrera dans le plein des ennemis, ou du ciel, ou des nuages, comme une lance maniée par l'éclair et plantée par le dieu même de la victoire. Voilà le rythme du maître, chef de la guerre, patron de la paix. André Suarez.
Donc, Colleone était un capitaine au service de Venise, qu'il a servi pendant une trentaine d'années, et quand il est mort dans son château de Malpaga, en 1475, si je me souviens bien, il a légué à la ville de Venise 100 000 sequins afin de permettre à l'État de continuer la guerre contre les Turcs. Ce legs était très généreux, mais en somme, ce n'était qu'une façon de restituer à Venise l'argent que Venise lui avait versé pendant les 30 années de service qu'il lui avait donné. Mais il avait posé une condition à ce legs, c'est qu'on lui élèverait une statue au milieu de la piazza, en face de la basilique San Marco. Le Sénat n'a pas voulu accepter, parce que cela aurait entraîné une prolifération, si cet exemple avait été imité, une prolifération de statues à un endroit qui devait rester absolument vide, à la fois pour les nécessités du commerce, de la promenade, et aussi pour la beauté de cet espace vide et pur de la place. On a donc décidé de construire cette statue ici, là où elle est, à côté de San Giovanni e Paolo, et on a commandé l'œuvre à Verrocchio, qui était un très grand sculpteur et un très grand peintre florentin. Il est venu à Venise, mandaté par le Sénat, et il a commencé à se mettre à l'ouvrage, mais immédiatement les réalités ont éclaté et on a voulu lui opposer un autre sculpteur très médiocre qui s'appelait, je crois, Bellano, si je ne me trompe. Verrocchio, furieux, apprenant cela, a cassé les jambes du cheval et est reparti pour Florence. Ensuite de quoi, le Sénat lui a fait savoir que si jamais il remettait les pieds à Venise, on lui ferait couper la tête. Heureusement, tout cela s'est arrangé. Verrocchio et les sénateurs se sont mis d'accord. Verrocchio a travaillé à la statue, qui est une œuvre magnifique, monumentale, qui est le condottiere dans son acception la plus brutale, la plus brute, enfin la plus simplifiée. Il n'a pas pu l'achever, malheureusement, parce qu'il est mort en 1488. Et c'est un autre sculpteur, Antonio Leopardi, qui a fini le monument, prodigieux monument, dans lequel la vitalité du cheval et la vitalité de l'homme ne font qu'un. On a l'impression que vraiment là, il s'agit d'un centaure, et que Colleone, et ce n'est pas seulement le condottiere en soi, c'est aussi l'homme faustien, l'homme en face de son devenir, l'homme en face de sa destinée.
Il est tellement un senteur que j'ai toujours été frappé de la petitesse des jambes. Elles paraissent disproportionnées. Cet homme-cheval n'a plus besoin de ses jambes, elles deviennent petites. Il y aurait d'ailleurs une chose à signaler au passage, c'est une hypothèse, mais certains historiens de Léonard de Vinci, comme Stites aux États-Unis, sont des fervents de cette thèse, c'est que pour la tête en particulier, Léonard, qui était l'élève de Verrocchio et qui a collaboré à certaines œuvres de Verrocchio, aurait apporté son concours. Et il est certain qu'il y a un dessin célèbre de Léonard qui est à la Brera, si je ne me trompe.
Oui, une tête d'homme.
Une tête d'homme qui s'appelle le condottiere.
On l'appelle le condottiere.
C'est absolument le même profil. Et il y a là échange, soit que l'influence vienne de Verrocchio et l'exemple de Verrocchio, soit même peut-être que Léonard ait apporté quelque chose à cette œuvre, disons-le au passage.
Or, la tête de ce guerrier est belle à effacer tout le reste. Sous le casque à trois pièces, qui coiffe les deux bords du visage comme une chevelure longue taillée à l'écuelle, c'est la tête terrible de Mars, chevalier, ou Saint-Michel blanchi dans la bataille, commandant la vieille garde des anges. La tête longue, les grandes joues carrées aux muscles carnassiers, toute la face rayonne une énergie inexorable. Le col épais est gonflé de trois plis comme le cou des aigles, et ses plis bien ourlés répètent trois fois la ligne du menton vaste. Tout le bas de la figure est animé par la houle de ses vagues, comme par une marée de triple volonté. Assez court et violent, le nez descend un peu sur la bouche étonnante, une grande bouche, amère, circonflexe, qui s'abaisse en deux pentes de formidable mépris. Et la lèvre basse, qui porte le poids du cri intérieur ou la volonté du silence, est large, forte, loyale, sans souci de cacher rien, hardie à épancher toute violence, s'il faut, toute amitié ou une menace inextinguible. Pour tes yeux, Corleone, ils sont bien ceux de César. Énormes, ronds, enchâssés au double anneau des paupières et des rides. Et la double bague renfle aussi le sommet du nez, formant avec les sourcils cette paire de besicles furieuses qu'on voit aux grands oiseaux de proie, ainsi qu'aux vieux lions. André Suarez.
Sans Zaccaria, tout au moins l'ancienne église, celle qui a précédé l'église que nous voyons maintenant, est bien symptomatique de la condition vénitienne du début, puisqu'elle fut fondée par Giustiniano Participazio, mais avec la collaboration de l'empereur Léon V l'Arménien, au IXe siècle donc, et l'empereur envoya même de l'argent pour la construction de l'église. Donc ici, dans le passé de cette église, nous avons la marque initiale de cette collaboration byzantino-vénitienne. Quant à l'édifice actuel, il est un exemple extraordinaire, pour ne pas parler de sa beauté, mais pour parler de sa signification vénitienne, il est un exemple de ces transitions dont l'art de Venise est familier. Tout à Venise passe d'un mouvement dans l'autre selon un rythme marin comme la vague passe dans la vague. Il n'y aura que la coupure de Palladio dans l'histoire de l'architecture qui marquera une transition, une saccade de l'évolution. Et ici, la base de la façade, comme d'ailleurs la première partie de l'intérieur, a été commencée par Gambello. Et avec Gambello, nous trouvons, c'est le stylobate qui est entièrement son œuvre, nous trouvons encore cet esprit qu'il y avait à la Cadoro, où la géométrie commence à intervenir avec des pleins et des plans, mais chacun de ces plans, malgré la rigueur des carrés réguliers qui les déterminent, avec des séparations de rectangles plus étirés, chacun de ces plans est une fête pour l'œil, avec ici un ton légèrement saumon de, du marbre où des blancs veinés viennent tracer des dessins géométriques et au centre un gris verdâtre plus soutenu forme un carré inscrit à l'intérieur d'un carré. Il y a là la transition entre cet art de la couleur, cet art qui est par la sensibilité et qui brusquement, comme une eau qui entre dans une canalisation, qui brusquement se soumet à une géométrie qui va parfaitement faire le passage avec la Renaissance. Et quand la façade sera terminée par Guiducci, nous passerons en effet à l'art de la Renaissance, à un art de forme, de rythme, de calcul, sans aucune espèce de difficulté. Et on retrouve d'ailleurs dans les parties hautes, encore par les saillants des colonnes, des pilastres, des jeux de lumière différents. La colonne donne une ombre progressive et modulée. Le pilastre forme un angle brutal et une cassure. Nous trouverons aussi dans les motifs décoratifs des vibrations qui animent la surface, qui font jouer les ombres. Mais toute la partie supérieure est déjà ce champ des nombres qui va être à la base de l'art de Palladio dans l'épanouissement classique de Venise. Le premier étage de la façade, au-dessus du stylobat, est encore un rythme d'arcature, chacune d'entre elles enfermant une coquille où se retrouve le jeu de l'ombre et de la lumière, naturellement, le long des rayons qui strient la conque. Et ces arcatures sont régulières et forment une suite et comme un cortège. Mais quand nous passons à l'étage au-dessus, une disposition ternaire qui était déjà suggérée par les saillants de la façade s'affirme. Il y a un groupe de trois fenêtres dans la partie centrale et puis séparée par un couple de colonnes en saillants, une seule fenêtre sur chaque aile latérale. Puis à l'étage encore au-dessus, nous passons de 3 à 2. Il n'y a plus que deux fenêtres ouvertes entre deux fenêtres fermées et les deux éléments latéraux viennent rejoindre l'élément central avec uniquement le dispositif circulaire d'un œil de bœuf. Et alors on remonte en haut encore, un étage supplémentaire qui répète l'étage précédent mais qui est seul et n'est plus que la partie centrale pour achever sur un œil de bœuf un peu plus grand qui vient former un triangle avec les deux que nous avons trouvés au troisième étage, qui vient former un dispositif triangulaire qui s'inscrit sous la grande courbe, sous l'arc que surmonte la statue du saint. Et nous sommes donc passés ainsi de la base, qui est le jeu des couleurs dans la matière, ébauchant la géométrie. Nous sommes passés à la musique de la géométrie qui réside dans les harmonies, des rapports et des proportions. Et il était naturel que cette ville musicale qu'est Venise transposa la musique tantôt en sonorité comme dans la couleur, tantôt au contraire en composition de rythme comme dans les formes.
Le Bellini de San Zaccaria est une des œuvres majeures de Giovanni Bellini qui se trouve dans Venise, mais c'est plus que cela. C'est un de ses tableaux, une de ses œuvres d'art qui marque un des moments d'équilibre de l'histoire de l'art et de l'histoire de la sensibilité par une convergence miraculeuse de forces diverses et souvent contradictoires qui, pour un instant, sont réunies et convergent les unes vers les autres. En effet, ce tableau, il a derrière lui Byzance. Byzance qui est évoquée dans la mosaïque qui forme
l'arc de cercle au-dessus de la Vierge, l'abside au centre de laquelle elle est assise. Il y a Byzance, Byzance dont nous saisissons la liaison intellectuelle avec l'Italie de la Renaissance, car nous voyons en effet que dans Byzance, il y a non seulement l'Orient, mais il y a aussi le vieux génie grec, et donc ce sens de la géométrie, de la proportion des formes, car tout ce tableau, comme un tableau de la Renaissance italienne, mais avec la présence de Byzance encore sensible, ce qu'on ne peut plus percevoir dans la Renaissance italienne, tout ce tableau est construit sur le type des grandes mosaïques triomphales, des mosaïques de Sainte-Sophie, c'est-à-dire un axe central, le personnage principal en légère surélévation, les personnages latéraux se répondant un à un dans une sorte de symétrie qui est l'ordre et l'harmonie réalisée dans le monde. Donc nous avons là toute cette continuation et en même temps, la clé étant toujours cette mosaïque byzantine que nous voyons au centre, cette mosaïque n'est pas seulement inscrite dans un arc de cercle, elle n'est pas seulement le quart parfait d'une sphère, l'image la plus parfaite du volume, mais en même temps cette mosaïque est jeu de lumière, jeu d'ombre, jeu de couleurs et les grands rinceaux, les grandes volutes où viennent s'inscrire des oiseaux, marquent au contraire toute la vie en souplesse, toute cette vie que la Venise maritime a si bien connue. Et tout cela vient s'unir merveilleusement en passant par le sens des matières, qui sont en quelque sorte l'intermédiaire entre la forme pure et la sensibilité émotive de la couleur et de la lumière. Il y a la matière entre les deux, par exemple ce trône de marbre qui est une merveille géométrique, mais avec le soulèvement en son centre de la tête qui sert de décor en haut du dossier, qui introduit un mouvement, mais qui est la merveille d'un marbre blanc où de très légères veines courent, apportent un grisé. Et par là, nous passons à la transmutation de cette géométrie pure en lumière et pénombre, car l'éclairage est latéral et Bellini s'enchante à traduire ce volume indéterminé qui change sous l'action des changements de la lumière, précisément. Et puis, il y a la clé de tout cela en bas. Il y a un ange musicien qui joue du violon et ainsi nous nous apercevons que cet art de Venise à ce moment miraculeux concilie toutes les possibilités de l'art. Il est architecture par son décor, par son cadre. Il est sculpture également, il faut le dire, par le côté monumental des saints qui fait penser à Masaccio et aux plus purs volumes humains de l'art florentin. Et puis, il est en même temps, par cette présence de l'ange musicien penché sur son instrument et dont nous sentons vibrer en onde la musique, il est en même temps musique. Et ainsi, architecture, sculpture, musique, pourquoi en un instant, dans un tableau, tout se trouve-t-il réuni avant que tout vers les destinées de l'art baroque qui va commencer se trouve à nouveau séparé et suivant chacun son destin.
À San Giorgio Maggiore, nous nous trouvons en présence d'un phénomène tout à fait nouveau dans l'histoire de Venise et dans l'évolution de son architecture. Nous assistons à l'arrivée de Palladio. Palladio qui a semé la ville de monuments admirables, mais qui y a apporté tout de même un esprit tellement neuf, un esprit tellement déconcertant qu'il est intéressant d'analyser ou d'essayer d'analyser aujourd'hui, en face de cette façade de San Giorgio Maggiore, tout ce qu'il y a de différent ici et tout ce qui rompt la tradition proprement vénitienne. On peut dire que, jusqu'à Palladio, il y avait eu, tout au long de la Renaissance, une certaine indulgence et une certaine complaisance pour les formes gothiques précédentes. Et qu'il y avait aussi cette recherche d'un accord avec l'antique tel que le comprenaient les hommes du XVe siècle. Avec Palladio, nous assistons à une rupture brutale, parce qu'elle n'est pas un retour à l'antique. Elle est la création totale, entière, d'un classicisme absolument neuf, d'un classicisme qui adopte évidemment des éléments antiques, qui adopte un style de colonne, qui adopte un style de fronton, mais qui brise tout cela et qu'il reconstitue selon un schéma intellectuel tout à fait imprévu. Et je dis volontairement un schéma tout à fait intellectuel, parce que jusqu'à présent, dans l'évolution de l'art vénitien, nous avions assisté à cette sorte d'osmose, de compénétration réciproque de l'intelligence, de la sensibilité et de la sensorialité qui convient à un peuple né de la mer et vivant en contact constant avec cet élément mouvant par excellence, changeant par excellence qu'est la mer et le ciel qui domine la mer. Ici, nous sommes en face d'un art qui tourne le dos à la mer, qui tourne le dos au ciel et qui se retourne uniquement vers son monde intérieur. L'œil de Palladio est un œil qui n'est pas dirigé vers la nature, mais qui est dirigé vers une conception du monde, vers une conception des idées et des formes, les formes étant le visage vivant, la forme vivante de l'idée, qui n'a pas de précédent dans l'histoire de Venise. Et c'est pour cela que le phénomène palladien, si fascinant, si grandiose, si émouvant, mérite une tentative d'explication, surtout en ce qui concerne le sentiment nouveau des formes et des proportions telles que Palladio l'a inauguré.
On avait déjà senti avec Sansovino combien le reste de l'Italie rentrait dans Venise. Mais avec Sansovino, c'était en somme un rejet de Rome et de Florence qui pénétrait dans Venise et qui s'adaptait à Venise. Avec Palladio, c'est véritablement une synthèse qui est effectuée et on pourrait dire que l'apport du reste de l'Italie, ce côté plus intellectuel, ce goût des formes pures, conçues par l'esprit et des proportions, on pourrait dire qu'il s'intègre dans Venise parce qu'il redevient musical. Et c'est là qu'est l'articulation, car Palladio est profondément vénitien parce qu'il digère cette intrusion et il la fait rentrer dans la grande loi de dominante musicale de Venise. Palladio appartient au milieu humaniste qui se développe à cette époque. Il est ami en particulier de l'humaniste Trissino et c'est par lui peut-être qu'il s'ouvre à toutes les sources classiques de la culture et en particulier à Vitruve qui a exercé sur sa pensée tant d'influence. Mais il y avait en même temps déjà une sorte de digestion à Venise des découvertes du reste de l'Italie. C'est Aldemanus, si je ne me trompe, qui a publié la divine proportion de Fra Luca Pacioli. Fra Luca Pacioli, illustré par Leonardo da Vinci, par Vinci, avait exposé tout un système de proportions basé sur la sectio aurea, sur la section d'or. Or, ceci a pénétré dans Venise. Et dans les milieux humanistes, on fut séduit par la proportion, car quand la forme est assemblée avec la forme, il y a là un acte pur, intellectuel, qui n'est pas musical, si je peux dire. Et une nation musicale, une sensibilité musicale, ne peut accepter la forme que s'il y a entre elles des liaisons, des rapports, des proportions qui lui créent une harmonie et qui la musicalisent. Et c'est ainsi que, dans le cas où précisément Palladio a pris la suite de Sansovino, c'est-à-dire à San Francesco della Vigna, où il avait été amené à faire la façade, il est intéressant de voir qu'il y a eu une discussion, et on voit que les idées nouvelles pénétraient jusque dans les milieux les plus officiels, puisque le Doge Gritti avait chargé Francesco Giorgi, qui avait fait des recherches sur les lois harmoniques et qui a publié d'ailleurs chez Almanus également son Harmonie du monde. Ceci est en rapport avec ce que disait justement Marcel Brion. Il y a là des lois de proportion qui se relient à une conception de l'univers tout entier. Et bien le Doge Gritti avait chargé Francesco Giorgi de faire un rapport pour voir comment on pourrait faire la façade de l'église. Donc continuer en quelque sorte Sansovino, mais en le raffinant par ses calculs de proportion. Et il était spécifié que cette relation, si je peux dire, ce mémoire devrait être basé sur des rapports musicaux. Et les conclusions en furent adoptées d'ailleurs par une commission où il est très intéressant de voir que Titien siégeait en même temps que Serlio et je crois même que l'Aretin. Et il y a donc là une unanimité de Venise, et c'est parce que Venise sent qu'ainsi on musicalise les proportions. Et l'esprit, le génie de Palladio a été justement de musicaliser ces lois qui étaient plus abstraites ailleurs. Quand nous regardons cette admirable façade, elle est toute entière basée sur la proportion, c'est-à-dire sur un jeu entre des éléments qui autrement seraient distincts. Si on regarde, il y a le mélange, si l'on veut, d'un temple antique et d'une église, d'une basilique. Mais il y a en réalité deux façades. Il y en a une qui est en largeur. On voit très bien l'entablement et l'ébauche d'un fronton qui vient buter contre la partie centrale. C'est une église en largeur, mais la partie centrale est une église en hauteur. Et tout le jeu que se donne Palladio est donc de créer une unité avec deux données diamétralement opposées. Et de même, le jeu est aussi ayant des colonnes qui sont semblables, des colonnes corinthiennes qui se répètent, de jouer, Michel-Ange le fera de son côté, de jouer sur deux proportions différentes. Et on retrouve la même colonne encadrant les tombeaux qui sont sur la façade latéralement, et ce sont ces colonnes qui grossissent, devenues presque gigantesques au centre, vont soutenir le fronton central. Ainsi, tout un jeu s'établit où l'unité ne repose plus sur l'un, si l'on peut dire, mais sur la conciliation du multiple par des rapports, et ces rapports reposent sur les nombres, et c'est par là qu'on rejoint la musique.
L'église Il Redentore, une belle et grande œuvre de Palladio, la façade plus digne de louange que celle de San Giorgio. On devrait avoir devant les yeux ces ouvrages souvent reproduits par la gravure pour faire comprendre ce qu'on veut expliquer. Je ne dirai ici que quelques mots. Palladio était entièrement pénétré de l'existence des anciens. Il sentait la petitesse et l'étroitesse de son temps, comme un grand homme qui ne veut pas se soumettre, mais transformer autant que possible les choses d'après ses nobles conceptions. Il était mécontent, comme j'en conclus d'une remarque discrète de son livre, de voir qu'on persistait à construire les églises chrétiennes sur le modèle des anciennes basiliques, et il tâcha pour cela de rapprocher ces édifices sacrés de la forme des temples antiques. C'est pourquoi il se produisit certaines disparités, qui me semblent heureusement évitées dans Il Redentore, mais qui sont trop apparentes dans San Giorgio. Volkmann en dit quelque chose, mais sans toucher le fond de la question. À l'intérieur, Il Redentore est également exquis. Tout, même le dessin des autels et de Palladio. Malheureusement, les niches, qui étaient destinées à recevoir des statues, exhibent de plates figures en planches découpées et peintes. En l'honneur de saint François, les pères capucins avaient pompeusement décoré un autel latéral. On ne voyait en fait de pierre que les chapiteaux corinthiens. Tout le reste paraissait recouvert d'une broderie magnifique et pleine de goût, dans le genre des arabesques, et cela aussi joliment qu'on pouvait le souhaiter. Je regardais surtout avec étonnement les larges rinceaux et feuillages brodés d'or. Je m'approchais et je trouvais une très jolie supercherie.
Tout ce que j'avais pris pour de l'or était de la paille aplatie collée en beau dessin sur du papier, avec le fond peint en couleurs vives, et cela avec tant de variété et de goût que cette attrape, dont les éléments n'avaient aucune valeur et qui avait été sans doute exécutée au couvent même, aurait certainement coûté plusieurs milliers de thalers si elle avait été quelque chose de réel. On pourrait bien l'imiter à l'occasion. Goethe.
Presque à la pointe de Venise, derrière la dogana qui accueillait les voyageurs arrivant par mer, s'élève un des monuments les plus célèbres, la Salute de Baldassare Longhena. Et il est beau que Venise s'ouvre ainsi par un monument qui semble concentrer toutes les possibilités de l'architecture vénitienne. Et nous trouvons ici, dans sa quintessence même, cette dualité qui a fait la richesse de Venise dans sa peinture, comme dans son architecture. Chez Longhena, il y a encore une trace de Sansovino. Longhena avait une formation de sculpteur, et comme Sansovino. Et il a ce sens sur la géométrie qui parfois est d'une rectitude presque sèche, qui semble même une surenchère sur la pureté de Palladio. Il a le sens d'ajouter tout d'un coup des grouillements savoureux où la sculpture introduit tous ses gonflements et jusqu'à ses mollesses. Il y a par exemple chaque façade de l'octogone qui constitue la base, le tambour de la coupole. Chacune de ces façades est aiguë avec son horizontale sur laquelle se dresse le triangle du fronton. Les fenêtres qui se découpent au-dessous sont un demi-cercle parfait et deux bandes sans aucun ornement viennent par tiers couper verticalement l'espace de la fenêtre. Les colonnes au-dessous prolongent ces verticales. Il y a là quelque chose qui confine à la sécheresse dans la pureté. Et pourtant, sur les côtés de la coupole, il y a ces énormes volutes formant ailerons et comme des contreforts modernes pour l'époque qui soutiennent la masse du tambour de la coupole. Et là, tout d'un coup, c'est le vertige des forces déchaînées et sous la forme de la spirale, car le cercle, la ligne droite, le carré sont des formes qui évoquent l'unité de la pensée. Elles peuvent être conçues, tandis que la spirale évoque les éléments, évoque la mer. La spirale est la forme des tourbillons, des trombes, c'est la forme des remous dans l'eau, c'est la forme que prend naturellement toute rencontre de deux courants ou de deux degrés de chaleur dans l'eau, comme dans l'air d'ailleurs. Et alors on trouve à coller tout d'un coup cette géométrie pure qu'on trouvait aussi dans Carpaccio, mais avec ce mouvement de la mer qu'on trouvait aussi dans Carpaccio, ce n'était qu'une vague dans Carpaccio. Ici, nous allons jusqu'au tourbillon et l'on pense que nous sommes passés au-delà de Tintoret. Et en même temps, nous trouvons cette admirable architecture qui se déploie non seulement dans le plan, mais qui occupe l'espace. Et l'on pense à la chapelle hexagonale du Bergamasque, la toute petite chapelle du cimetière de San Michele. Et ici, c'est l'énormité du même thème, mais qui est traité dans un octogone. Ainsi, Venise, à son seuil même, semble résumer tous ses prestiges.
Ce passage du plan basilical cher à Palladio, dans lequel il était encore classique, en montrant en même temps toutes les tentations du baroque, s'achève maintenant dans cet immense élan hélicoïdal d'une église dont la fonction a été d'exprimer la reconnaissance de Venise pour une épidémie de peste terrible dont la ville, heureusement, a été sauvée. Nous avons donc Longhena qui arrive à ce moment tragique de la destinée de Venise. Et il construit deux églises, une église plus petite dans le temps le plus dramatique, c'est-à-dire dans le moment où l'on se demande si la population entière ne sera pas anéantie. Et c'est l'église que l'on appelle la Madonna del Pianto, c'est-à-dire la Madone du pleur. Et cette église n'est que l'ébauche de l'admirable symphonie de joie qui éclate, symphonie de joie et de reconnaissance qui éclate au moment où l'épidémie est arrêtée. 1631, me dites-vous, cher René Huyck, et heureusement votre mémoire corrige les défaillances de la mienne. Et c'est à ce moment-là, justement, que Venise, reconnaissante, veut élever ce témoignage de gratitude et lui donner en même temps la forme des monuments anciens, ce retour au plan circulaire qui était une forme symbolique à la fois de l'infini, de l'éternité et d'un absolu contenu dans une forme immuable. Cette montée de la salute dans ce mouvement ascensionnel, cette spirale qui semble ne devoir jamais s'achever et qui, en cependant, est enracinée, est amarrée, on peut dire, à tous ces ressauts de la façade et des chapelles, c'est ici vraiment, non pas la naissance du baroque, mais presque déjà ce que le baroque peut accomplir de plus profond comme signification religieuse, comme pensée éternelle, comme expression de son angoisse et de son salut. Nous avons à San Moïse un exemplaire extrêmement intéressant de la sculpture baroque telle qu'elle a évolué à Venise dans le courant du XVIIe siècle et jusqu'au XVIIIe. La façade de l'église est complètement recouverte de statues gesticulantes, de tombeaux sur le couvercle desquels le mort, ne voulant pas se résigner à sa disparition finale, gesticule aussi. Et cela est très caractéristique d'une évolution esthétique qui rompt l'immobilité traditionnelle de la figure pour entraîner celle-ci à imiter les gestes de l'être vivant. La sculpture baroque a ceci de particulier, qu'elle incarne les passions de l'homme intérieur, qu'elle traduit ses inquiétudes et qu'elle traduit par-dessus tout cette inquiétude de la mort, cette peur de disparaître complètement, qui ne peut être exorcisée que par cette illusion du mouvement que conserve encore l'effigie du défunt.
Avec San Moïse, comme d'ailleurs avec Santa Maria del Giglio, qui est un peu plus loin, nous nous trouvons avec une reprise de cet instinct vital qui a toujours animé l'art vénitien et qui l'a beaucoup plus incliné vers le baroque, l'éternel baroque, que vers le classicisme. Mais tout de même, il y avait eu, sous l'influence de la Renaissance italienne, nous l'avons vu, il y avait eu cette reprise d'un esprit d'ordre, d'un esprit intellectuel, ramenant les choses à un dispositif immobile de l'espace, qui s'était développé depuis Sansovino jusqu'à Palladio. Et Sansovino avait pourtant contracté en quelque sorte avec son contact avec Venise, avait contracté un certain gonflement des formes qui venait s'ajouter aux structures romaines qu'il apportait avec lui. Mais Palladio avait balayé tout cela. Et maintenant nous sommes en face d'un regain de cette puissance. Mais il est net que nous sommes à la fin de Venise. L'Empire de Venise s'est écroulé. Il n'y a plus maintenant que la Crète qui va tomber pendant ce XVIIe siècle. La Morée sera reconquise, mais tout cela n'est qu'un dernier sursaut. L'agonie de Venise commence. Et ce regain de vie lui-même n'est pas sain. Car jusqu'ici, nous avions vu la vie se manifester par une sorte d'élan, de mouvement qui partait des fluidités des lignes gothiques jusqu'au tourbillon du paradis de Tintoret. Et tout cela bouillonnait, tout cela vivait, tout cela éclatait d'une vie qui essayait d'enfreindre les limites de la forme, de la bousculer, de la parcourir, d'y réintroduire la vie du flot. Et voici que soudain, ce baroque, si séduisant qu'il soit, redevient sur les structures une sorte d'enflure, de boursouflure. Les choses gonflent, mais les choses gonflent sur place. Le mouvement est mort. Et maintenant, il y a là une espèce de pléthore et de cancer presque qui a sa puissance rhétorique et qui nous émeut, mais qui nous émeut déjà comme un signe de maladie et d'agonie.